Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec Mario Barre
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc. Texte de la liturgie catholique romaine pour le 23e dimanche.
Des foules nombreuses font route avec Jésus. Il se tourne vers elles et leur dit :
Si quelqu'un vient vers moi, et s'il ne hait pas ses pères et mères, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, celui-là ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa propre croix en venant à ma suite, celui-là ne peut pas être mon disciple. Lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a pour aller jusqu'au bout. De peur qu'ayant posé la fondation de celle-ci et n'ayant pas la force de mener à terme, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant « Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas eu la force de mener à terme. » Ou bien quel roi, s'il marche contre un autre roi pour l'affronter à la guerre, ne commence pas par s'asseoir pour examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'aller à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, tandis qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour Mario.
Bonjour Georges. Voilà des paroles, Georges, qui aujourd'hui sont pleines d'exigences et qui peuvent même nous sembler assez inhumaines. Comment le maître de l'amour peut-il demander à son disciple de haïr, et de haïr même ceux de son sang ?
Eh bien, citons d'abord notre texte. Il est à la suite d'une section que certains exégètes appellent les propos de table, où Luc regroupe certaines exigences pour vivre la gratuité de l'amour, ne pas choisir les premières places dans les repas et inviter à sa table les exclus. Ici, les exigences semblent effectivement porter à leur extrême. N'oublions pas que nous sommes dans cette montée vers Jérusalem et que Jésus instruit ses disciples pour les préparer à sa passion et à sa mort.
Celui-là ne peut pas être mon disciple.
Oui, par trois fois, l'expression rythme notre passage. Eh bien, qu'est-ce qu'être disciple ? Le mot français vient de la racine indo-européenne « dek » ou « doc » qui a donné par exemple le mot « doctrine ». Et donc, il parle d'enseignement. Le mot grec « didaskein » signifie également « enseigner ». Et nous avons un autre mot grec « mathétès » qui vient d'un verbe signifiant lui aussi « instruire, enseigner. Dans la langue de Jésus, on trouverait probablement le mot « talmid » que l'exégète Chouraki traduit par « adepte », mais qu'avec Marcel Jousse, nous pouvons traduire par « appreneur ». Le talmid, l'appreneur, reçoit l'enseignement de son rabbi, de son maître, et il aura la mission de le transmettre à son tour. L'appreneur va apprendre le commentaire de la Torah que fait son maître. Mais il va apprendre surtout à en vivre. Car la Torah est d'abord un enseignement qui donne la direction à suivre pour trouver la vie et le bonheur. La Torah, c'est une règle de vie qui est inspirée par Dieu. Ainsi, l'enseignement du rabbi, de l'enseigneur, n'est pas seulement un enseignement théorique. Et c'est pourquoi l'appreneur, pour apprendre à vivre comme son maître, va vivre avec son maître. En effet, il apprendra autant en écoutant son enseigneur qu'en le voyant vivre, en le voyant agir. Une autre expression d'ailleurs typique décrit le disciple comme celui qui accompagne, celui qui suit son maître. C'est ainsi d'ailleurs que l'on peut comprendre la réponse de Jésus à la demande des deux disciples de Jean le Baptiste.
Jésus, se retournant et voyant qu'ils le suivent, dit « Que cherchez-vous ? » Ils lui disent « Rabbi ». Ce qui se traduit par « enseigneur », « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez ».
Le rabbi Jésus va formuler trois exigences à ceux et celles qui veulent venir à sa suite. Haïr ses proches, porter sa croix, renoncer à tous ses biens. Ces exigences sont évidemment celles que le maître Jésus, lui, vit particulièrement.
Un disciple n'est pas au-dessus de son maître. Celui qui est formé sera comme son maître.
À son tour, le disciple deviendra un maître et il devra vivre quotidiennement les mêmes exigences pour les enseigner à ses appreneurs. Mais comment doit-on comprendre ces exigences ?
Si quelqu'un vient vers moi et ne hait pas ses pères et mères, sa femme et ses enfants...
Si quelqu'un vient vers moi, nous l'avons vu, il ne s'agit pas seulement d'une rencontre ponctuelle, d'un moment où l'on vient écouter Jésus un peu par distraction. Non, c'est un engagement de toute la personne qui choisit Jésus comme maître de sagesse et guide de vie. Ce maître qu'est Jésus, est-ce qu'il serait alors un gourou despotique qui veut s'accaparer la liberté de ses disciples? On sait de nos jours que la chose n'est pas exceptionnelle. Il y a encore bien des gourous qui privent leurs adeptes de leur liberté. Que signifie donc dans la bouche de Jésus cette exigence de haïr? Est-ce seulement une espèce de langage provoquant qui veut faire choc? Eh bien, notons d'abord que le mot haïr dans la Bible, et notamment dans la littérature de sagesse, ne signifie pas forcément avoir de la haine. Il s'emploie pour exprimer un amour moindre, non pas une haine, mais une préférence. Donnons un exemple dans le Deutéronome au chapitre 21.
Lorsqu'un homme a deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il hait, si l'une comme l'autre lui donne des fils, et si l'aîné est le fils de la femme qu'il hait, alors, au jour où il donnera ses biens en héritage à ses fils, il ne pourra pas donner le droit d'aînesse au fils de la femme qu'il aime, au détriment de l'aîné, qui est le fils de la femme qu'il hait.
Comme la langue juive n'a pas de comparatif, l'expression « haïr » veut dire « aimer moins ». Dans cette citation qu'on vient de lire du Deutéronome, « haïr » doit se comprendre « aimer moins ». Lorsqu'un homme a deux femmes, l'une qu'il aime et l'autre qu'il aime moins. De là, certaines traductions de notre texte d'aujourd'hui, comme la traduction qu'on trouve dans la Bible écuménique, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à ses pères et mères ». Matthieu, d'ailleurs, donne une autre formulation, « qui aime ses pères et mères plus que moi ». Il faut donc aimer moins ses pères et mères, ses enfants, ses frères et sœurs que Jésus. Pourquoi ? Même si l'exigence semble atténuée en traduisant « haïr » par « aimer moins », devoir préférer le maître, son appreneur, à sa propre famille reste pourtant quelque chose de surprenant. Et cela rejoint d'ailleurs une autre réplique de Jésus.
On lui annonce « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et veulent te voir ». Il répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu ».
Quelle est la raison de cette attitude de Jésus face aux liens familiaux? C'est que pour lui, l'amour familial n'est pas l'expression la plus parfaite de l'amour. Au Ve siècle, le grand penseur et évêque Augustin disait qu'il y a trois degrés dans l'amour. Aimer, 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 être aimé et aimer. Et c'est le troisième degré, aimer, l'amour purement gratuit, qui est le véritable amour à la manière de Dieu. Alors, l'amour familial se situerait plutôt au stade d'aimer être aimé, car cet amour familial comporte une bonne part de réciprocité. On aime en effet là des gens qui nous aiment. Et si nous n'avons que cela comme pratique de l'amour, cet amour familial pourra nous laisser dans l'illusion quant à notre véritable capacité à aimer d'un amour vraiment gratuit. L'amour des pauvres, au contraire, est un amour totalement gratuit parce que on ne peut rien attendre d'eux en retour. Et Jésus demande souvent de tester la gratuité de notre amour précisément en aimant les pauvres.
Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis,
ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteront en retour, et cela te sera rendu.
Et aux riches, qui pratiquent pourtant fidèlement tous les préceptes de la Torah, Jésus dit :
Une seule chose encore te manque. Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens, suis-moi.
Toute l'instruction qui suit les béatitudes ne cesse de marteler ce thème de la gratuité. Et alors que Matthieu parle d'être parfait comme le Père des cieux est parfait, Luc traduira « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La miséricorde, c'est justement cet amour gratuit et inconditionnel qui est le vrai amour, car il ressemble un peu à l'amour dont Dieu aime. Si nous voulons donc être parfaits, comme Jésus le comprend, il faut être miséricordieux. La demande de Jésus ne signifie donc pas qu'il nous demande de renoncer à nos liens familiaux, mais Jésus veut que nous aimions nos parents d'un amour gratuit, et c'est pour ça qu'il nous demande de le préférer à nos parents. C'est qu'il veut nous apprendre à aimer tout être humain d'un amour inconditionnel. Il veut nous apprendre à aimer de ce troisième degré de l'amour dont parle Augustin. Jésus a montré l'exemple de devoir tout quitter et de donner priorité à ce règne de l'amour, même au prix de sacrifier quelque peu les relations familiales. Les relations de ceux qui s'engagent à la suite de Jésus, de ses disciples, ces relations-là doivent être des relations de vraie gratuité. Et l'assemblée des disciples sera donc le laboratoire de la gratuité. À l'exigence de liberté envers la famille, Jésus ajoute encore cet autre. « Celui qui vient à moi sans haïr sa propre vie, celui-là ne peut pas être mon disciple. » Il ne s'agit pas de se mépriser, de se détruire pour mieux aimer le prochain. Notre acte de charité ne nous fait-il pas demander d'aimer notre prochain comme nous-mêmes ? Il s'agit d'aimer son prochain, encore une fois, d'un amour gratuit. Dans la langue française, nous n'avons malheureusement qu'un mot unique pour décrire trois réalités d'amour que la langue grecque désigne de trois noms différents. L'éros, c'est-à-dire l'amour passion, aimer. La philia, c'est-à-dire l'amour amitié, aimer être aimé. L'agapé, que l'on traduit l'amour charité, mais qui pourrait plus justement aujourd'hui être appelé l'amour-bonté, car le mot charité a été déprécié. S'il faut haïr ceux qu'on aime, c'est parce qu'on les aime mal ou égoïstement. S'il faut même se haïr soi-même, c'est pour apprendre à mieux aimer. C'est, pour reprendre une réponse de Maurice Zendel, un homme marié qui se confessait d'avoir une maîtresse, « Aimez-la davantage, lui a-t-il dit. » Oui. Il faut apprendre à aimer davantage. André Comte Sponville, un philosophe français qui se dit athée, un contemporain, a écrit une belle description de cet amour-bonté.
Il y aurait donc trois façons d'aimer, ou trois degrés dans l'amour. Le manque, l'éros, la joie, l'amitié, la charité. Il se peut que cette dernière, la bonté-charité, ne soit en vérité qu'un halo de douceur, de compassion, de justice, qui viendrait tempérer la violence du manque ou de la joie, qui viendrait modérer ou creuser ce que nos autres amours peuvent avoir de trop brutal. La charité se reconnaîtrait à ceci, qu'elle n'a pas besoin de la souffrance de l'autre pour l'aimer, qu'elle n'a pas besoin d'être aimée pour aimer, qu'elle n'a que faire de réciprocité ou d'intérêt. Ce serait comme une amitié libérée de l'ego. Celui qui ne porte pas sa propre croix en venant à ma suite, celui-là ne peut pas être mon disciple.
Ce n'est pas la première fois que dans l'écrit de Luc, Jésus nous parle ainsi. Aussitôt après que Pierre ait donné à Jésus son titre de Messie, Jésus prévient ses disciples.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive.
Souvent, on cherche à minimiser l'expression « porter sa croix » en lui donnant le sens qu'il faut accepter les épreuves de la vie. Pourtant, il doit falloir prendre l'expression dans son sens le plus réaliste. Écoutons une réflexion de Jacques Sénève.
Au temps de Jésus, et déjà avant sa passion, les témoignages ne manquent pas qui permettent d'interpréter « porter sa croix » au sens précis d'abandonner son existence, d'être disposé à mourir et finalement de mourir. Lorsque Luc nous parle de haïr son père, sa mère, sa femme, etc., il évoque la situation concrète des tout premiers disciples du Christ. Pour eux, se joindre au Christ, c'était s'aliéner, en fait, sa propre famille, accepter la condition de paria dans le milieu palestinien. Mais cela valait aussi, toute proportion gardée, des premiers chrétiens dans l'église naissante du temps de l'évangéliste. Et l'histoire nous montre comment, tout au long des siècles, ces paroles du Christ ont trouvé un écho dans la vie de nombreux chrétiens.
La croix de Jésus n'est pas une mort naturelle, comme la fin normale de son existence. La croix de Jésus est le résultat de sa prédication. Elle est l'aboutissement d'un conflit entre les chefs juifs et Jésus, un conflit qui vient essentiellement de la vision de Dieu qui était prêchée par Jésus. Pour lui, Dieu n'est pas d'abord le Dieu juge qu'il faut suivre par crainte. Il est le Père tout aimant dont il faut accueillir l'amour. Cette vision du Dieu amour est ce qui va faire rejeter Jésus par l'élite religieuse. Mais c'est aussi ce qui va engager Jésus à ne pas user de violence envers ceux qui le rejettent. Celui en effet qui n'agit qu'avec bonté court le risque d'être rejeté tout autant par ceux qui oppriment les autres que par les opprimés eux-mêmes. La seule réponse de celui dont toute la vie est guidée par la bonté ne peut être que de se livrer à ceux qui le rejettent. Il ne peut pas y avoir d'autre réponse que de livrer sa vie par amour. Avec l'ultime espérance que cet amour pourra vaincre le mal en ceux qui s'opposent à lui et qui le haïssent. Oui, si la violence et la haine peuvent détruire la vie physique de l'autre, elles détruisent en premier lieu la vie morale du violent. Gandhi voulait amener ses adversaires à être justes, afin qu'ils accèdent ensemble, par le pardon et la bonté, à l'honneur d'être des êtres humains. Le sort de Jésus devra être aussi le sort de ses disciples, et cela par choix. Comme leur maître, ils devront dire « Ma vie, personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. » Ailleurs, Jésus dira « Qui cherche à conserver sa vie la perdra, qui la perdra la sauvegardera. » La route proposée par Jésus est un combat difficile contre toute forme de violence. Celui qui propose un message de bonté et de réconciliation, ça d'ailleurs n'exclut pas le combat pour donner justice à tous les exploités, eh bien celui qui propose ce message de bonté et de réconciliation se verra rejeté la plupart du temps par les puissants. Et s'il veut sauver son âme, il ne pourra pas répondre par des moyens de violence. Il devra aller jusqu'à livrer sa vie à ceux qui le rejettent, dans l'espérance que ce geste d'amour vaincra finalement le cœur du violent. Ce combat d'amour est le seul qui soit digne de Jésus et de son adepte, parce qu'il est le vrai combat de Dieu, de ce Dieu qui est lent à la colère, plein d'amour et de miséricorde, bienfaisant avec les ingrats et les mauvais. Jésus a déjà illustré ses exigences.
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, à qui te frappe sur la joue, tant aussi l'autre.
À toutes les époques de l'histoire de l'Église, des chrétiens ont ainsi livré leur vie pour témoigner de la force de l'amour et de la réconciliation. Notre époque a aussi ses martyrs, Monseigneur Roméo, Monseigneur Girardi, tant d'autres qui nous sont peut-être inconnus. Donner priorité à Jésus et à son Évangile, c'est augmenter notre capacité d'aimer et de semer l'amour en vivant le pardon malgré l'épreuve, en cherchant à comprendre au lieu de condamner, en voulant être porteur de paix dans un conflit, en tentant de traduire un peu de tendresse dans des relations tendues. Oh, certes, tout cela n'est peut-être pas directement la mort sur la croix, mais cela implique que par une grande force d'amour, on s'efforce de renoncer à son ego pour aimer tout prochain en vérité. Cette grande force d'amour, c'est dans le cœur de Jésus que son disciple pourra la trouver.
Lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a pour aller jusqu'au bout?
S'engager à la suite de Jésus implique donc d'être bien conscient de l'enjeu. Et Luc illustre cela à l'aide de deux petites paraboles, celle du bâtisseur et celle du roi. Que signifient ces petites paraboles de la construction de la tour et des préparatifs de guerre? Pour mener à terme une entreprise difficile, il faut certes s'assurer qu'on en a les moyens, sinon on risque de devenir la risée du monde ou de se faire écraser. Pourquoi Luc a-t-il situé ses paraboles à cet endroit? Et bien plus, il en donne une conclusion qui n'est pas évidente à première vue. Quiconque d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. On aurait pu s'attendre à autre chose, comme le conseil de bien se préparer humainement, moralement, intellectuellement, le conseil de renoncer à ses biens est donc surprenant. Eh bien, il retentit ailleurs dans cet évangile. On retrouve cela dans la petite parabole du trésor caché dans un champ. Un homme le trouve, dans sa joie il va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. L'expression « vendre tout » se retrouve aussi dans la rencontre avec le riche. Une seule chose te fait défaut, tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor aux cieux. Vendre tout ne signifierait rien, si ce n'est pas pour donner précisément aux pauvres. Et aux pauvres, quand on leur donne, on apprend la gratuité. Le trésor enseigné par Jésus, c'est la gratuité avec laquelle nous devons aimer. Elle est trésor parce qu'elle seule conduit au bonheur véritable. Si Jésus nous appelle à le suivre, c'est parce qu'il est lui-même tout entier donné et qu'il peut nous apprendre à nous donner nous-mêmes pour trouver le chemin du bonheur, comme l'a bien écrit René Latourelle. La présence du Christ dans le monde apparaît comme une plénitude d'amour. Dans le règne du moi égoïste, le Christ apparaît comme l'amour pur, ardent, fidèle, donné, livré jusqu'au sacrifice de sa vie pour tous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi, comme le dit l'apôtre Paul. Et Paul traduira merveilleusement cette exigence d'amour qui est demandée aux disciples de Jésus.
J'ai des raisons d'avoir aussi confiance en moi-même. De la race d'Israël, hébreu, fils d'hébreu, pour la Torah, pharisien, devenu irréprochable pour la droiture qu'on trouve dans la Torah. Toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme dommageables à cause du Christ. Je considère que tout est dommageable en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus Messie, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu, et je considère tout comme à rejeter afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non plus avec une droiture à moi qui vient de la Torah, mais avec celle qui vient de ma foi au Christ, la droiture qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le reconnaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts.
Voilà le plus beau et le plus concret commentaire qui donne la raison des exigences que Jésus propose à ses adeptes. Si je fais l'option pour Jésus, voilà comment il me faut vivre pour aller jusqu'au bout. Alors, quand nous serons blessés, serons-nous prêts à nous oublier? Serons-nous prêts au don total de nous-mêmes? Comme Paul, nous le pourrons si l'amour de Jésus est la vraie passion de notre vie. Terminons par un petit fait de vie raconté dans un partage d'évangile.
J'ai compris pour la première fois ce qu'est renoncer à moi-même à cause de Jésus. Une amie m'a téléphoné et m'a crié « Viens me voir, j'ai un goût de suicide, viens me voir ». Elle pleurait beaucoup. je suis allé la rencontrer. Je l'ai écoutée longuement. Elle avait besoin de vomir sa détresse. Écouter l'autre n'est pas facile, ni toujours épanouissant. J'ai ressenti que je me perdais un peu, que je perdais mon temps, que j'aurais pu faire autre chose. Puis j'ai compris qu'en perdant un peu ma vie, en donnant un peu de moi-même par l'attention portée à l'autre, je permettais, avec l'Esprit de Dieu, la possibilité d'un genre de résurrection, d'un relèvement, d'un retour à des jours meilleurs. La possibilité, pour mon ami, de reprendre goût à la vie, de reprendre son souffle, de se relever.
Oui, c'est en aidant l'autre à revivre que nous vivrons nous-mêmes de résurrection.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez également sur Internet. Notre adresse, les www.relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal, sans trait d'union et en un seul mot.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.